Voilà, ben ce soir on procède différemment. On a eu le temps de prière d'abord. Je termine avec des encouragements, quelques pensées de la parole. Si vous voulez bien ouvrir avec moi le psaume 139, on va se laisser bénir par ce psaume de David et considérer ensemble trois axes de bénédiction. Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. La semaine dernière, on a, au travers du psaume 65, qui commence par « Toi qui écoutes la prière », on a considéré que David exprime de nombreuses bénédictions qui sont liées à la vie de prière. Et ce psaume de prière, ce psaume de louange, de reconnaissance, qui commence par « Avec confiance, avec assurance, ô Dieu, on te louera dans Sion », on a vu ensemble les différentes raisons pour lesquels on pouvait vraiment avoir une réelle confiance, une assurance dans la prière, puisque prier, c'est vraiment ce moment où, par la grâce de Dieu, même si, comme Fred l'a rappelé, nous avons son esprit en nous, nous sommes en contact, en communion avec lui. Quand nous sommes en prière, il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est ce moment privilégié où nous élevons notre âme à Dieu, où nous le rencontrons de façon spécifique. Et puis David exprime les raisons pour lesquelles on s'approche de lui avec assurance, avec confiance, avec joie. C'était l'assurance d'être reçu, d'être écouté, l'assurance de toujours trouver son pardon, sa miséricorde, l'assurance, une fois que le péché est effacé, d'avoir ce libre accès à sa présence, l'assurance d'être affermi en lui, par lui, l'assurance de sa paix, l'assurance d'une vie joyeuse, l'assurance d'une provision inaltérable puisqu'il pourvoit à tout. On avait vu tous ces points ensemble qui sont les bénédictions de la prière. Et puis, ce soir, je pensais aussi, pour faire comme une espèce de suite, comme une espèce de lien, le psaume 139 est aussi composé par David. Et on lit ça ensemble ce soir. Prier, c'est aussi rencontrer et avoir contact avec trois facettes de Dieu. Dieu omnipotent, Dieu omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, omniprésent, présent partout à la fois. Psaume 139, verset 1er au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Les voies désignent la marche, les voies désignent ma façon d'être, ma façon de vivre. Tu pénètres toutes mes voies, tu sais tout de moi. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où fuirais-je loin de ton esprit? Et où irais-je? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, mais là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, même la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Incroyable. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. prier, c'est vraiment avoir un contact avec les différentes facettes de Dieu. Et ici, David exprime trois facettes de la personne de Dieu qui sont en réalité ici ses attributs métaphysiques. Dieu a des attributs moraux, sa sainteté, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Il y a des attributs moraux. Et par le Saint-Esprit, depuis notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous partage, il nous fait grandir dans la sainteté, grandir dans la paix, grandir dans la joie. Il nous fait grandir dans les attributs de Dieu. Mais ces attributs-là, ces attributs métaphysiques sont l'exclusivité de Dieu. Et bien évidemment, il ne les partage avec personne. Ce sont les attributs du Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Mais il ne les partage avec personne. Mais nous sommes en contact avec les facettes de ce Dieu et avec ses attributs métaphysiques. Et nous en sommes bénéficiaires. Et c'est important de le comprendre. David l'a compris et nous le partage dans ce psaume. Et on voit que, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais David est réellement émerveillé et on peut tirer réellement des applications concrètes pour nos vies. Ce ne sont pas des informations intellectuelles, mais ce sont réellement des révélations de cœur qui fortifient nos âmes, qui fortifient nos vies, notre foi, notre assurance, notre joie, notre confiance, et puis qui vont aussi nous permettre d'ajuster notre marche avec lui. La première chose que David souligne, c'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience d'un Dieu qui nous connaît parfaitement. Dieu sait absolument, et des fois ça m'émerveille d'autant plus, je me dis, Seigneur, avec tout ce que tu sais sur moi, comment tu as fait pour m'aimer et m'appeler et me garder? Un Dieu qui sait absolument tout ce qu'il y a à savoir de moi, mais avec un degré de précision qui est inimaginable, mais que David décrit ici à merveille. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des métaphores, c'est vraiment à prendre au sens littéral. L'omniscience de Dieu, le fait qu'il sache tout, va jusque dans les moindres détails de chaque instant, de chaque seconde de nos vies. Verset 2, « Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. » Le Seigneur ne me perd jamais de vue un seul instant. Quand j'étais un jour dans l'église de Caen, j'y visite une sœur qui commençait à décliner dans son âge avancé. Et puis j'avais lu, j'avais partagé ce psaume avec elle. Puis quelques temps plus tard, elle me rappelle, elle me dit, elle avait du mal, vraiment elle avait du mal à se lever. Elle se levait, mais c'était bancal, pardonnez-moi l'expression. Et puis elle allait s'asseoir, mais c'était... Et se relever, c'était compliqué, vu le poids des années. Et puis, ce qu'elle craignait, c'était le jour où peut-être il y aurait une chute. Et s'il y avait une chute, elle se disait, comment je vais faire pour me relever si un jour je chute? Parce que je suis incapable, si je tombe, je suis incapable de me relever. Même m'appuyer sur une chaise pour me relever, c'est impossible. Et puis la sœur, elle me dit dans une autre... Elle me dit, pasteur, vous n'allez jamais deviner ce qui m'est arrivé. Je le sais, je n'ai pas rêvé. Je suis, à un moment, je suis tombé. Je me suis pris les pieds dans je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Je suis tombé, je me suis affalé de tout mon long. J'étais seul, j'avais pas mon téléphone, j'avais pas mon bip, je n'ai pas de force. J'ai crié à Dieu. Elle me dit, je ne sais pas comment c'est possible, mais par contre, je me suis retrouvé sur ma chaise. Et je ne sais pas comment j'ai... Je dis, oui, ma petite sœur, parce que le Seigneur, il sait quand vous vous asseyez. Il sait quand vous vous levez et il sait quand vous tombez. Et il est toujours là et il est capable d'eux. Il sait quand je marche, il sait quand je me couche. Il connaît toutes mes voies, il sait tout ce que je fais. À s'asseoir, se lever, marcher, se coucher. Franchement, on ne fait même pas attention. Le nombre de fois dans la journée où on fait ça. Mais pour le Seigneur, ce n'est même pas anodin. Pour nous, c'est banal, on n'y pense même pas. Mais David me montre que Dieu sait absolument tout. Il sait exactement où je suis, dans quelle posture je suis, il connaît chacune de mes actions et pour lui, il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de banal et il est là, il est présent et il veille. Amen. Ah, pourquoi on s'inquiète? Ça ne sert à rien. Et puis, ça va encore plus loin parce que le Seigneur, lui, Non seulement il voit, il sait, mais il a ça comparé aussi aux forces des ténèbres. David l'exprime très bien, c'est que le Seigneur, lui, il nous sonde. Tu pénètres de loin ma pensée. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Aucun ange ne peut faire ça. Le diable, bien que ce soit une créature très puissante, n'est qu'une créature et il n'est pas tout puissant. Il n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Il n'a rien de tout ça. Il a de la puissance, il a certaines connaissances, mais le livre de Job nous enseigne qu'il parcourt la terre et il ne peut être présent qu'à un seul endroit. Les forces démoniaques aussi. Seul le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Dieu est omniprésent partout, sur l'ensemble de la surface de la terre, 24-24, à chaque seconde, ça c'est vraiment des attributs de Dieu. Et David est ici en train de montrer, quand il dit « tu me sondes, tu pénètres de loin ma pensée », ça c'est l'exclusivité de Dieu. Parfois il y a des chrétiens qui ont peur que le diable sache ce qu'il pense, etc. Non, non, le monde spirituel nous voit vivre, certes, mais l'ennemi de nos âmes ne peut absolument pas sonder notre pensée ou sonder nos cœurs. Le seul qui lit en moi, mais alors avec une clarté, c'est limpide, exactement, on va dire, comme dans un livre ouvert, le Seigneur, il sait même des choses sur moi que même moi, je ne sais pas. Il y a des moments, je n'ai même pas conscience de, parfois de mon état, je n'ai pas conscience de mes besoins, parfois je n'ai même pas conscience de mes véritables problèmes, il y a tellement de choses dont je ne suis même pas conscient sur moi-même. Mais Dieu, il me connaît mieux que moi-même et il sait. Et David ne dit même pas « tu me sondes », il dit « tu pénètres de loin ma pensée ». Non seulement tu lis en moi comme dans un livre ouvert, mais en plus, tu, Seigneur, tu sais ce que je vais penser avant même que je le pense. C'est fort quand même. Ma femme est forte parce qu'elle arrive à dire des choses avant que je les dise. Et des fois je lui dis « chérie, faudrait... » Parce que quand on a vécu ensemble depuis très longtemps, il y a des moments, on se connaît si bien que je commence une phrase, elle la termine. Puis il y a des moments, je suis sur le point de dire un truc, elle me coupe, elle me dit « oui, je sais, tu vas me dire ça ». Je dis « ah non ». Mais ça, c'est le privilège du couple au bout de dizaines d'années. Mais le Seigneur, lui, c'est le seul. Il sait ce que je vais penser avant même que je le pense. Extraordinaire. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais même, puisque tu sais ce que je pense, tu sais même ce que je veux dire, ce que je vais dire. Donc même ce que je vais faire de bien. Et tu sais quand je vais penser mal. Et tu sais avant. Et quand je vais dire quelque chose ou faire quelque chose de mal, Seigneur, tu le sais avant. C'est pas que le Seigneur est d'accord avec les mauvaises pensées, hein. Ou avec le péché, avec les mauvaises paroles, et il n'est pas d'accord, on est d'accord. Mais le Seigneur sait, il savait, avant que je chute, il savait que j'allais chuter. Ça ne l'a pas empêché de m'aimer. Ça ne l'a pas empêché de m'appeler. Ça ne l'a pas empêché de me garder. Et David l'exprime à sa façon. Même si je prenais les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, verset 9, c'est une façon métaphorique de dire « Seigneur, mais même si j'allais loin, de toute façon, tu es omniscient, tu es omniprésent, Seigneur, de toute façon, tu es partout et je ne peux rien te cacher. Alors à quoi ça sert dans l'idée ? À quoi ça sert ? Lorsque je ne me sens pas bien là à l'intérieur, parce que... j'ai mal pensé, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Il peut y avoir des fautes, des erreurs, des chutes. Il peut y avoir des moments où il peut y avoir du péché, des choses à régler. Je ne peux rien cacher au Seigneur. Il sait tout. Que Adam et Ève, eux, après avoir péché, ils soient allés se dissimuler dans leur buisson, on peut comprendre, ils n'avaient pas la révélation du Dieu omniscient. Mais quand Dieu ensuite se met à la recherche d'Adam et Ève qui par le péché ont cassé la relation avec Dieu, ont commencé à voir la peur grandir en eux, ils n'avaient jamais eu peur avant le péché, ça c'est une conséquence du péché, et qui sont allés se cacher, le Seigneur parcourt le jardin, il dit « Adam, où es-tu ? Où es-tu Adam ?» Vous ne croyez quand même pas que Dieu était vraiment en train de chercher Adam pour qu'il lui dise dans quel buisson il s'était planqué, hein, on est d'accord. C'est parce que Dieu voulait simplement initier une démarche, il voulait susciter un dialogue, il voulait que Adam se manifeste, il voulait susciter en lui un cœur repentant et puis une démarche. Seigneur, je ne peux rien te cacher. Alors quand je ne suis pas bien là à l'intérieur, quand je sais que j'ai mal agi, quand je sais que j'ai mal parlé, quand je sais que j'ai mal fait, plus vite je viens vers toi, Seigneur, plus vite je te le dis, plus vite je règle ça, plus vite c'est réglé. Amen. Et je m'évite bien des tourments. Et l'omniscience de Dieu, cette omniscience dans laquelle est même incluse sa prescience, puisque Dieu sait tout, mais Dieu sait même tout d'avance. Ça, c'est un autre sujet. Mais le fait que le Seigneur sache tout, ça me rassure. Je dis, Seigneur, tu sais tout d'avance. Puis ça m'émerveille. Puis en même temps, ça me responsabilise. Je me dis, ah, Seigneur, tu savais. La grâce nous rend responsables. Je vous l'ai dit dimanche, une grande grâce entraîne toujours une grande responsabilité. Alors Seigneur, tu me connais tellement bien. Tu me connais. Vous connaissez cette expression, des fois on a dit, des fois, au sujet de certaines personnes ou à des gens, nos enfants, on dit, c'est toi, ben, depuis le temps, je te connais comme si je t'avais fait. Ça tombe bien, c'est le Seigneur qui nous a fait. Et David en est conscient, il nous a fait, parce que nous avons, dans le sein de notre mère, c'est lui qui nous a tissés, David en est conscient. Je suis une créature merveilleuse, c'est de la vie est un miracle, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Le Seigneur nous a vraiment fait physiquement. Mais il nous a fait aussi spirituellement. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés deux fois. Une fois physiquement et une fois spirituellement par la nouvelle naissance, par l'action de la parole et de l'esprit. Mais là, David est en train de s'émerveiller, non pas devant sa beauté physique, il n'est pas question de physique ici, il est question simplement du miracle de la vie, de cet être humain, de ce corps qui émerveille encore même la science aujourd'hui, et encore on n'a même pas toutes les réponses, le cerveau reste un mystère encore pour les scientifiques, c'est un miracle, surtout qu'il est fait à partir de rien. Il n'y avait rien, du néant, et le Seigneur a tissé chaque être vivant, chaque naissance, depuis Adam et Ève, l'Esprit de Dieu fait une âme vivante. Merci Seigneur, nous sommes réellement des machines, pardonnez-moi pour l'expression, vous comprenez, parce que le corps est vraiment un fonctionnement incroyable et une âme vivante à l'intérieur de ce corps, tout ça à partir du néant. Mais quand je considère la capacité de Dieu à créer, à engendrer à partir de rien, des fois quand on a de la matière première et qu'on fait quelque chose de génial, c'est déjà bien. Mais l'être humain, pour faire des belles choses, il lui faut de la matière première. Mais David est conscient que Dieu est créateur à partir de rien. Il dit, il n'a même pas besoin de main, Dieu est esprit. Sa parole suffit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et la chose arrive. Du néant, je parle, dit Dieu, et j'amène les choses à l'existence. Incroyable. En quoi ça me concerne, ça, finalement? Ben déjà, ça m'émerveille quand même, parce que c'est un Dieu exceptionnel. Un jour, j'étais dans une autre église, et puis il y avait un frère qui je ne sais plus ce qu'il avait, mais son genou, il avait eu un accident, son genou, c'était n'importe quoi, il boitait, il avait toujours des douleurs, des trucs, c'était, il ne s'en sortait jamais, son genou c'était une catastrophe, je ne sais plus ce qu'il s'était fait honnêtement. Mais il s'appelait Hans, je me souviens de lui, je le revois très bien, je revois son genou. Et puis un jour, un dimanche, je le vois arriver, je m'occupais des premiers pas de la vie chrétienne dans mon église avant l'entrée dans le ministère. Et puis il arrivait à la foi vraiment, et puis un jour je le vois arriver, il me dit « Stéphane, regarde ce que je fais maintenant ». Je dis « Waouh Hans, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je dis « Ça y est, le Seigneur t'a guéri, il y a quelque chose ». Il me dit « Oui ». Je dis « Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte ». Alors il y avait le groupe, je dis « Vas-y raconte, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ? Comment ça t'est arrivé surtout ?» Il me dit « Ben j'étais en train de méditer ». Est-ce qu'il était sur le psaume 139 ou Genèse, chapitre 1er, je ne sais plus. Mais il était en train de réfléchir à la puissance créatrice de Dieu. Et au lieu de savoir que Dieu, dans sa tête, que Dieu est créateur, il était en train de relire, et dans son âme, il a la révélation dans son cœur la révélation que Dieu dit et que du néant il dit et la chose arrive. Et là, il est confondu, il tombe en larmes, il tombe à genoux, enfin pas sur les deux, mais sur, il s'assoit, il bénit Dieu, il loue Dieu, il dit « Seigneur, mais tu fais des choses comme ça, mais... » Et il réalise d'un coup, il dit « Mais ça, mais c'est rien Seigneur, guéris-moi !» Et il se lève et paf, et le genou qui se débloque et après il commençait à courir. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la révélation du Dieu qui est omniscient et qui est aussi omnipotent, qui sait tout. Il dit et la chose arrive. Il y a l'omniscience de Dieu avec la prescience aussi de Dieu et il y a aussi son omnipotence. Verset 10. Ta droite me saisira. Il est question de la droite, il faut comprendre. La main, il est question de la main et il est question de la droite. Je ne vais pas vous faire toute une étude là-dessus, mais juste en résumé, il faut comprendre que dans ce langage, encore une fois imagé, métaphorique, David est en train de faire référence à l'action de Dieu. Et c'est ça qui nous parle de son omnipotence. La main fait référence à l'action. Dans la Bible, la main est un symbole d'action. « Je vous ai sauvé, dit Dieu à son peuple, je vous ai sauvé à main forte et à bras étendus. » Donc c'est une image, puisqu'on sait que Dieu est esprit, d'accord, il n'a pas de main, il n'a pas besoin de ça, mais je vous ai, c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, Dieu, pour nous faire comprendre ce qu'il fait, utilise des attributs physiques. « Je vous ai sauvé, je vous ai arraché, à main forte et à bras étendus. » La main est un symbole d'action. Et plus précisément encore, la droite, verset 10, il est aussi question de la droite de Dieu qui est capable de me saisir pour m'arracher au danger, quelle que soit sa forme. « Ta droite me saisira », symbole de puissance. La droite est un symbole de puissance. La droite est un symbole de bénédiction. La droite est aussi un symbole d'efficacité. Lorsque vous vous souvenez de Joseph, lorsqu'il a amené Manassé et Éphraïm à son père, lorsqu'il a amené à Jacob, enfin qui était devenu Israël, lorsque Joseph amène ses enfants, il emmène parce que Manassé est le premier, et normalement c'est lui qui doit avoir la prééminence et la bénédiction. Donc Joseph fait en sorte d'amener Manassé dans sa main gauche pour le mettre sur la droite d'Israël pour qu'il le bénisse. Mais au moment où il arrive avec ses enfants, Israël, Jacob, est conduit, il est inspiré parce que ça doit être comme ça, parce que le but de tout ça, même si Manassé est extraordinaire, le but c'est Éphraïm, c'est l'avenir. Et en réalité, au moment où, alors qu'il est aveugle et que Joseph lui amène ses fils, il nous est dit que même si sur l'instant Joseph n'a pas compris que ça ne lui a pas plu, Israël, Jacob, au lieu de mettre sa main droite sur Manassé, il a déplacé sa main droite en biais et il a apporté la bénédiction sur Éphraïm avec sa main droite. La droite, dans la parole, est un symbole de bénédiction et d'efficacité, un symbole de puissance. Seigneur, tu es capable de me sortir, c'est la pensée de David, tu es capable de me sortir de n'importe quelle situation. Seigneur, tu es capable de me bénir dans n'importe quelle situation, même dans l'adversité, quand les circonstances sont contraires. Seigneur, ce que ta main fait, ce que ta droite fait et accomplit, Seigneur, est réellement efficace. Et toi, Seigneur, dans ton omnipotence, omniscience et omnipotence, Seigneur, je suis émerveillé de te voir assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu n'es jamais inquiété. Merci Seigneur. Tu es toujours paisible. Le Seigneur n'est jamais dépassé. Peu importe la situation, j'ai la révélation dans mon cœur d'un Dieu qui a permis, parce que je dois être formé, parce que je dois être forgé, parce que j'ai des choses à apprendre, parce qu'il veut m'amener à une maturité. J'ai la vision, réellement cette révélation intérieure d'un Dieu qui sait, d'un Dieu qui savait même d'avance, et d'un Dieu qui a, bien qu'il savait tout, il a permis telle et telle épreuve, telle et telle injustice, telle et telle difficulté. Il a permis, il savait et il a permis. Mais quand j'ai la révélation d'un Dieu omniscient, excusez-moi, peu importe ce qui se passe, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une tuile qui m'est tombée sur la tête. Des fois, on dit « Ah, il m'en est arrivé une sacrée tuile cette semaine. » Des fois, on a des façons de parler, on ne se rend pas compte, mais c'est anti-biblique. « Ah, il y a une tuile qui m'est tombée dessus. » Non, non, le Dieu omniscient et prescient, il sait. Il n'y a aucune tuile qui te tombe sur le coin de la tête. Il sait d'avance. Et en plus de savoir et d'avoir permis, parce qu'il a une œuvre à accomplir en moi, ensuite, il a aussi besoin pour sa gloire de révéler son omnipotence, sa toute-puissance, et de montrer qu'il n'est jamais à court de solution. Et d'une façon ou d'une autre, toute la Bible, si vous faites attention de la première à la dernière page, est une succession d'impossibilités. La Bible est une succession de A à Z, de problèmes, de déserts, de tempêtes, d'impossibilités sous toutes leurs formes, à laquelle le Seigneur, omniscient et prescient, permet, et qui va apporter dans n'importe quelle situation, par sa parole, la puissance de sa parole, imagé par sa droite triomphante, qui va apporter des miracles, des remèdes, des solutions, des bénédictions, des provisions, peu importe ce que les uns et les autres ont traversé, toujours par le moyen de la révélation, toujours par le moyen de la foi. Ça vaut bien un petit amen, ça, quand même. Hein ? Alors, un petit, juste un petit. Ceux qui n'ont pas dit amen, vous avez le droit de culpabiliser un peu, quand même. Seigneur, je m'attends à toi parce que, vraiment parce que tu sais, parce que tu es capable, parce que tu sais d'avance, parce que tu es tout puissant. En préparant ce message cet après-midi, il m'est revenu une expérience que j'ai faite dans les mois où le Seigneur vraiment, je vous avais raconté mon témoignage, commençait à me réveiller spirituellement et à me préparer pour le ministère. J'étais encore dans la police, j'habitais en banlieue parisienne, j'habitais en Seine-et-Marne. Et puis je partais le soir pour aller faire mes nuits dans la banlieue. Et puis je me souviens d'un soir où Mathieu, mon fils, était tout petit, il avait 3-4 ans. Et puis chaque soir, avant de partir au travail, j'avais l'habitude de lui lire une histoire, et puis de le coucher, de le préparer, d'attendre un petit peu, et puis qu'ensuite, une fois qu'il était couché, il ne s'inquiète pas d'entendre papa partir, etc. Je partais discrètement, etc. Et puis, un soir, j'arrivais pas à l'endormir, je lui raconte une histoire, je passe du temps avec lui, je vois l'heure qui tourne, et Mathieu ne dort pas. Et puis, je me dis, bon, il faut absolument que j'y aille, et Anne était en bas, on habitait une vieille maison en banlieue parisienne, une vieille maison de village avec un escalier raide, très raide et dangereux même, voilà. Et on faisait toujours attention aux enfants. Et puis un soir, alors que Mathieu ne dormait pas, je dis, il faut que j'y aille. Je dis, Doudou, tu restes au lit, tu ne bouges pas, maman est en bas. Tu sais que papa, il doit partir au travail. Je reviens, tu ne bouges pas. Et puis je dis au revoir à Anne, je prends mon sac et puis je monte dans la voiture. Et je démarre et je commence à rouler. Et au moment où, comme quoi c'est tellement important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, merci Fred, tellement important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, d'être toujours à l'écoute. Et là, j'avais fait 50 mètres avec la voiture, j'étais déjà en retard, je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais plus faire demi-tour. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est très fort en moi, il me dit, prie pour ton fils. Prie pour ton fils, tout de suite, prie pour ton fils. Je commence à prier, je ne sais pas pourquoi je prie, je parle en langue. Ça dure, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce que je sente la paix venir en moi. Le lendemain matin, il est 7h30, 8h du mat, je rentre. Et Anne, elle me dit, chérie, tu te rends pas compte ce qui s'est passé hier, une fois que t'es parti. Mathieu, il a commencé à paniquer, il a dit, papa, t'es où papa, etc. Enfin, je voulais pas faire la vieille chanson, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Je me dis, mince, ouais, mais j'ai pas fait exprès. Et c'est vrai qu'il s'inquiétait de ne pas me voir, il se demandait où était son papa, désolé, pardon. Hein. Et elle me dit, mais il a déboulé de sa chambre et il a voulu descendre l'escalier. Et là, quand il a voulu descendre l'escalier, il a dégringolé l'escalier qui était vraiment raide et très dangereux. Et il a vraiment dégringolé l'escalier. Il aurait pu se casser des membres, il aurait pu se rompre la nuque, il aurait pu. Et quand je suis arrivé le matin, il avait juste une toute petite égratignure, un tout petit bleu. Preuve qu'il était vraiment tombé, parce que sinon je n'aurais pas pu croire qu'il était tombé tellement il était intact. Dieu, en toute situation, il sait. il sait d'avance. Il est capable de me prévenir, il est capable de m'avertir et il est capable de garder et de protéger autant moi que n'importe qui, même si à un moment... Je vous dis ça parce que je sais, vous savez aussi ce que c'est que d'être parent. Et quand on n'est pas... On perd la main et que... Et puis il y a le moment où ils deviennent adolescents. Il y a le moment où ils vous cachent des choses. Il y a les moments où ils vont sortir en douce. Et vous allez vous dire, mais où il est parti? Il est 2h, il est 3h, il est 4h du matin. Il n'est pas rentré, il n'est pas rentré. J'ai un Dieu omniscient. J'ai un Dieu tout-puissant. Il est capable de garder. Il est capable de protéger. Ta prière, ta foi dans le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent suffit largement parce que peu importe là où était mon enfant, peu importe là où sont tes enfants, j'ai vraiment un cœur d'accentuer sur ça ce soir, que ton cœur soit dans la paix, ton Père céleste, lui, toi tu perds le contrôle, lui il ne perd pas le contrôle. Toi tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas où elle est, mais le Seigneur lui, peu importe l'endroit du globe où se trouve n'importe quelle personne qui t'est chère, il sait. Il voit, il est capable de garder, il est capable. Et ça, ça vaut un gros amen. Je préfère, merci. Trois dernières minutes. Pour ce soir, je ne fais qu'une seule conclusion, mais la vraie, c'est cette omniprésence de Dieu. Omniscience avec sa préscience, omnipotence, il peut tout, et aussi cette omniprésence de Dieu. À quoi est-ce que ça servirait? Ce ne serait pas complet. Si Dieu savait d'avance... Si Dieu était capable, il a le cœur, il a la capacité. Mais si Dieu à un seul instant me perdait de vue, s'il n'était pas présent partout en même temps sur l'ensemble de la surface du globe, et ça fait quand même une sacrée distance à couvrir, mais de toute façon, il est là, il est capable et il sait. À quoi est-ce que ça servirait qu'il sache et qu'il soit tout puissant s'il me perdait ou s'il perdait vos bien-aimés une seule seconde de vue ? Merci Seigneur, il est aussi omniprésent, présent partout à la fois. C'est ce qui fait que son amour et sa toute-puissance, son omniscience et son omnipotence vont pouvoir être totalement efficaces. Verset 8, si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 5, tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Le verset 8 est une métaphore, le verset 5 est plus direct, mais c'est encore une métaphore puisque Dieu n'a pas de main, vous avez compris. Mais ce sont des métaphores, surtout le verset 8, pour nous faire comprendre que Dieu est présent partout. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. David est conscient qu'il n'y a pas un seul endroit qui soit inaccessible au regard, à la bienveillance, à l'amour et à la toute-puissance de Dieu. Tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Pourquoi par devant, par derrière? Parce que ta protection est complète, ta protection est sans faille. C'est ça que le Seigneur, que David est en train de me dire. Je suis vraiment protégé, le Seigneur me garde en tout et partout. Et si un jour, comme le dit David au psaume 27, lorsque vient le jour du malheur, puisque j'ai un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, je ne m'inquiète pas. Je me pose. La révélation de ce Dieu a changé ma façon de voir les choses. Il n'y a pas de tuile qui m'est tombée dessus. Je me pose et je réfléchis. Et je dis, Seigneur, puisque tu savais que tu as permis... Puisque tu peux tout, mais que tu n'as pas encore agi. Puisque tu es présent partout, que tu es capable de me protéger de n'importe quoi, mais là tu as permis que quelque chose m'atteigne. Qu'as-tu à me dire, Seigneur? Du coup, où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et quand on envisage la vie de prière, la vie chrétienne, la vie en général, dans le cadre de ces trois facettes métaphysiques de Dieu, tout prend un autre sens et tout s'éclaire en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Quand il m'arrive quelque chose, c'est donc que je dois apprendre et que j'ai besoin d'expérimenter. Ta présence, Seigneur, c'est ma lumière. Verset 12, elle m'éclaire même dans les ténèbres. Aucun endroit n'est inaccessible pour toi. Il n'y a rien, Seigneur, qui puisse t'entraver et ton omniscience, ton omnipotence et ton omniprésence me rassurent et changent non seulement ma vie de prière, changent aussi ma vie, changent ma façon de penser, de raisonner, de questionner. Ça me change, ça me transforme de l'intérieur et ça amène une nouvelle perspective d'avenir aussi. Une science, dit David, aussi merveilleuse que ça, est au-delà de ma portée. Mais par la foi, je le saisis, j'en ai la révélation, je le vis et je m'épanouis dans ces facettes de mon Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité.